Bonjour à toi qui m'écoutes et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Science, Sport, Endurance. Pour ce nouvel épisode, on va accueillir une nouvelle invitée qui n'est autre que Claire Beauvais, médaillée d'argent aux JO de Tokyo en 2021 en double poids léger dans ce beau sport qu'est l'aviron. Elle nous dévoilera dans ce podcast comment elle a pu atteindre le plus haut niveau de ce sport et bien sûr ses futurs objectifs. Allez, on se retrouve tout de suite avec Claire. Salut Claire, comment vas-tu?
Salut, bah moi ça va super bien, je suis en stage là actuellement, donc tout va pour le mieux, puis on partira au championnat du monde la semaine prochaine, donc pour l'instant ça va bien.
Est-ce que tu pourrais te présenter un peu du coup pour les personnes qui te connaissent pas forcément, et quelles pratiques tu réalises, quel sport tu pratiques, même si les gens ont dû le lire dans le titre du podcast?
Yes. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Claire Beauvais. Je suis rameuse à haut niveau. Donc, je pratique l'aviron. C'est un sport nautique où on peut être tout seul ou à plusieurs. Donc, c'est en bateau. On tourne le dos à la ligne d'arrivée. C'est une des particularités de ce sport. Et sinon, dans la vie de tous les jours, je suis étudiante en kinésithérapie et j'ai 24 ans.
Ok, super. Je pense que les gens commencent à te connaître. Est-ce que tu pourrais énumérer un peu quand même ton palmarès pour montrer que tu n'es pas forcément débutante dans ce beau sport?
ouais, moi j'ai fait mon plus gros titre, ce sera celui de vice-championne olympique en double poids léger avec Laura Tarantola. À côté de ça, j'ai fait plusieurs fois championne de France. J'ai une médaille de bronze au championnat d'Europe et deux médailles d'argent. Quelques médailles sur Coupe du Monde en or, en argent et en bronze. Et puis et un titre de vice-championne du monde moins de 23 en indoor, donc à l'intérieur, sur la machine.
D'accord, ouais, donc tu es vraiment bien installé dans le monde de l'aviron, même international. Et est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu es arrivé à l'aviron, vraiment tes tout débuts, et comment c'est devenu vraiment une pratique au quotidien, quoi, enfin qui est devenu ton sport principal?
Moi, j'ai commencé quand j'étais au collège. En fait, dans mon collège, il y avait une section sportive. Et en fait, j'ai fait une promesse à ma meilleure amie. Je lui ai dit, OK, je ferai de l'aviron avec toi si tu fais du triathlon avec moi. Parce que bon, il faut savoir qu'on faisait jamais rien l'une sans l'autre. Donc voilà. Donc, je lui ai promis que je ferais de l'aviron avec elle. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, au club de Meulan. Donc, en section sportive avec le collège, juste le jeudi et le mardi. Voilà. Comme ça pour le fun. Après, les premières compètes sont arrivées. Au début, je voulais pas vraiment faire de compétition. Mais j'ai pas trop eu le choix parce que mes parents étaient aussi des rameurs de compétition avant. Et quand je leur ai dit que je voulais pas faire de compétition, on fait ah non 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 c'est pas possible donc j'ai commencé à faire des compétitions comme ça avec ma meilleure amie, les coéquipières du club et de fil en aiguille en fait j'ai marché dans les pas de mon grand frère qui est parti lui en sport études à Fontainebleau. Donc il a fait ses années lycée à Fontainebleau, donc j'ai fait exactement la même chose mes 2 ans de junior. J'ai intégré le pôle espoir de Fontainebleau pour continuer de ramer et en même temps pouvoir faire mes études à côté. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas aussi en équipe de France, mes premières sélections. Et en fait, c'était un peu tout naturel. Je me disais, bon, ça, les deux se coordonnent bien. Je fais des résultats. Donc, tant que je fais des résultats, je peux continuer comme ça. J'étais plus à la maison, j'étais en internat. Donc, c'était aussi des moments vraiment fun de ce côté-là. Et puis ensuite, je suis partie, quand j'ai fini mes années juniors, je suis partie à Lyon. Donc encore une fois, j'ai suivi mon grand frère qui était aussi parti à Lyon. J'ai commencé mes études de biologie et j'ai intégré le pôle France en structure d'entraînement vraiment, vraiment haut niveau. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais rentrée dans la cour des grands parce que les filles que j'ai côtoyées en équipe de France à ce moment-là, sur mon premier stage, c'était les filles qui étaient en fait en poster dans ma chambre quand j'étais en junior à Fontainebleau. Là, je me suis dit, ah ouais, c'est la next step, c'est l'étape d'après, quoi.
Alors ouais, donc en fait, toute ta carrière dans l'aviron est vraiment allée crescendo. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une étape, un moment où tu as vraiment passé un cap et là tu t'es dit, ouais, en fait, c'est possible que je fasse vraiment du haut niveau international, quoi?
En fait, ce qui m'a fait le déclic, alors ça peut être un truc un peu débile, mais c'est vrai que quand mon frère a fait la Coupe de la Jeunesse, Du coup, il nous a envo... moi j'étais en vacances avec mes parents, donc je faisais déjà de l'aviron, mais j'étais pas en pôle, je restais au club, je ramais juste un niveau ouais, national, c'était championnat de France club quoi, donc voilà. Et en fait, il a envoyé une photo de lui et de ses coéquipiers en train de teindre leur pelle en bleu, blanc, rouge. Donc, enfin, leurs avirons, donc ce qui nous sert à nous propulser. Et en fait, là, je me suis dit, waouh, je veux faire la même chose. Et après, ils avaient eu une valise de dotation avec des combis, des joggings, des casquettes, des t-shirts, tout ça en bleu, blanc, rouge. Je me suis dit, waouh, c'est trop la classe et tout. Et donc, en fait, mon objectif, c'était de rentrer en équipe de France pour pouvoir peindre mes pelles en bleu, blanc, rouge et avoir la coupe. Donc ça, c'était pour moi, c'est vraiment le déclic qui m'a fait dire, oh, je vais aller en équipe de France. Et l'année d'après, donc j'ai intégré le pôle espoir et j'ai dit au coach, enfin, il me demande pourquoi est-ce que je veux rentrer au pôle et je lui dis, bah, moi, je veux faire les championnats du monde et je veux aller à Rio et je veux peindre mes pelles et je veux avoir la combi d'équipe de France. Donc il a rigolé, bien sûr. Il m'a dit, bon, déjà, on va essayer de se sélectionner pour le championnat de France. Et voilà, et finalement, je suis allée à Rio et j'ai peint mes pelles, voilà, ma première année de junior. Donc ça, c'était le gros déclic.
Ouais, on peut dire que l'objectif est quand même réussi. Et du coup, ton frère a été vraiment important pour toi, pour t'aider à te motiver, etc. Enfin, c'était vraiment une personne importante pour toi dans l'entraînement et dans tes choix.
Bah, on va dire que c'est plus un modèle parce que c'est vrai que bah, en tant que petite sœur, je me suis dit, oh bah tiens, lui ça lui plaît. Enfin, au début, je voulais pas faire d'aviron donc je me suis dit, non mais lui en vrai, il se plaît là-dedans. Puis après, il est parti au pôle avec les autres gars, enfin, il y avait deux autres gars du club et c'est vrai que les histoires enfin, qu'il me racontait, ça avait l'air tellement drôle, tellement fun. Je me suis dit, ouais, moi aussi et tout, je veux rigoler comme ça. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais partir au pôle. Et c'est vrai que, bah, du coup, oui, c'était un peu un modèle. Et même encore lui, où lui, il se raccroche aussi au niveau, savoir s'il pourra peut-être retourner en équipe de France, etc. Mais quand je rentre à la maison, bah, lui, il est dans le monde du travail maintenant. Mais quand on s'entraîne ensemble, bah, c'est toujours hyper cool d'avoir un sparring partner et de savoir que on rentre à la maison et qu'on va pas être tout seul à s'entraîner parce que quand on est sur la structure d'entraînement, c'est facile, il y a toujours du monde, il y a toujours des gens pour s'entraîner avec soi, on n'est pas tout seul. Alors que quand on rentre à la maison, parfois c'est dur, on va dire, bon bah là, il faut que je continue de m'entraîner mais 12 fois dans la semaine, alors que les gens du club, bah, ils vont s'entraîner 6 ou 7 fois max. Et ça, c'est dur de s'entraîner tout seul, donc c'est vrai que je suis contente quand je rentre à la maison et que bah, Yvan, il est là et toujours partant pour s'entraîner et faire les mêmes entraînements que moi.
Ouais, j'imagine. C'est toujours plus simple de s'entraîner à plusieurs, comme tu le dis. Enfin, il y a quand même une source de motivation. Et du coup, pour rebondir un peu sur ta carrière de haut niveau, ce qu'il faut rappeler, c'est que toi, tu es dans la catégorie poids léger. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu cette catégorie à ceux qui la connaissent pas forcément?
Oui, moi je fais partie justement de ces rameurs qui ont une contrainte en plus le jour de la compétition. C'est que donc chez les filles, on a un poids moyenne à avoir donc, et à ne pas dépasser surtout. Donc nous, on a ce poids, c'est 57 kilos. Donc avec ses coéquipiers, on doit faire en moyenne 57 kilos sans jamais dépasser le 59. Donc si par exemple, il y en a une de nous deux qui est à 58, l'autre devrait être à 56. Pour compenser et pas dépasser la moyenne de 57 kilos. Donc voilà, donc ça c'est la plus grosse contrainte. On est pesé tous les jours de course, 2 heures avant notre course, et on a entre 2 heures et 1 heure avant la course pour se peser. Si on n'arrive pas à être au poids 1 heure avant la course, on est tout simplement éliminé en fait. On peut même pas switcher de catégorie et aller chez les lourds. Ça c'est pas possible.
C'est important ce que tu dis parce que en aviron, comme tu l'as dit, on se fait peser au maximum 2 heures avant la course, enfin entre 2 et 1 heure avant la course. Et on pourrait dire, c'est pas exactement la même chose que par exemple dans les sports de combat où là ils sont pesés la veille et du coup il y a beaucoup de techniques de déshydratation. Ils font des bains chauds, ils font toute une technique pour essayer d'être le plus maigre possible entre guillemets, enfin perdre le plus de poids possible le plus rapidement. Sauf que ça en aviron c'est pas possible de le faire parce que vu que c'est très proche de la course, le fait d'être déshydraté, etc. On se met déjà une épine dans le pied avant de commencer la course, quoi. Enfin, c'est pas du tout La même chose, c'est plus un régime sur le long.
C'est
En fait.
ça, c'est donc après il y a toujours des petites techniques hein, forcément moi j'en ai déjà vu et les premières années où je suis arrivée en senior, ça m'a fait un peu peur parce que ma première compétition, j'ai vu les rameurs c'était des rameurs irlandais qui faisaient de l'ergomètre, donc la machine à ramer là où on s'échauffe, on fait enfin voilà. Ils étaient en caouet, ils étaient en long, ils avaient cellophané tout leur corps. Et ils avaient mis des cagoules, des lunettes et tout, et ils faisaient de l'ergo en plein soleil, bah, pour se déshydrater et passer la pesée. Donc oui, sur certains ça marche, mais à long terme c'est pas viable. Et puis c'est super mauvais pour le corps, et on peut pas être performant en perdant 3 kilos et en les récupérant le lendemain. Donc ça c'est pas possible. Et surtout pour la course, oui, on est beaucoup beaucoup moins performant que si on arrive au poids le jour J. Alors, s'il s'agit de 100 ou 200 grammes, oui, c'est largement faisable le jour J. Si on se lève avec 200 grammes de rab, voilà, parfois on zappe juste le petit-déj, on attend la pesée pour remanger après et ça se passe bien, quoi. Mais non, ouais, il faut vraiment qu'on soit au poids avant.
Ouais, c'est important. Et un peu cette épée de Damoclès, c'est pas trop dur pour toi? Comment tu le vis? Est-ce que déjà, bah, ton poids, est-ce qu'il faut absolument que tu le régules ou c'est naturel?
Bah au début c'était plutôt naturel mais en fait au fur et à mesure des années je me rends compte que le régime est de plus en plus dur donc ouais non maintenant c'est un petit peu tout le temps au quotidien en fait de pas faire le yo-yo de pas monter bah en hiver on n'a pas les mêmes poids non plus moi je suis plus autour de 60-61 kilos en hiver je suis pas à 57 hein. Donc voilà mais c'est vrai que on va pas monter à 70 kilos Déjà, parce qu'on serait pas, enfin, moi en tout cas, je pense que je serais pas du tout efficace à l'entraînement si j'avais jusqu'à 70 kilos à traîner dans mon bateau. Et donc, oui, c'est une régularité à avoir un peu au quotidien, même si on n'y pense pas tout le temps. Si moi je suis gourmande, j'ai envie de manger quelque chose, je le mange, je ferai un peu attention plus tard. Se faire plaisir au bon moment, c'est important, mais toujours respecter son corps et pas lui imposer des cheat meals à gogo et après dire oups, ça passe pas. Donc, voilà.
Ok, ouais, donc ça va, ça t'arrive quand même à le gérer, même si au fur et à mesure des années, bah, c'est de plus en plus dur. Après ça, c'est normal, je pense que tu t'as, avec les entraînements, par exemple, de musculation, un peu plus de masse musculaire, et puis comme on sait, avec l'âge, le métabolisme, il descend un tout petit peu, donc on brûle peut-être un peu moins d'énergie au repos. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que peut-être avec l'âge, ça va être de plus en plus dur. Mais est-ce qu'il y a un entraînement, du coup, qui se spécialise vis-à-vis de cette catégorie ou pas du tout encore?
Non, pas vraiment en fait. Et c'est un peu notre bête noire en équipe de France, c'est que maintenant on a un nouveau head coach qui nous vient de Grande-Bretagne et avant qui était bah, plutôt pour les, enfin qui travaillait dans les pays de l'Est. Et en fait, lui, il s'occupe plus des gens en toute catégorie, donc les lourds. Et c'est vrai que là, on est passé sur des entraînements d'endurance. Qu'on faisait avant, on a switché, on est passé sur des. En musculation, on fait vraiment beaucoup de musculation lourde, et ça, en hiver, c'est cruel pour nous. Hein. On voit les kilos qui montent, et c'est assez dur. Donc, on essaye de se spécifier un peu en poids léger, d'individualiser plus l'entraînement, pour que nous, ça nous convienne aussi, qu'on reste performant, et qu'on n'ait pas besoin de brûler notre muscle parce que on n'est pas au poids et que de toute façon on n'a pas de gras à brûler en plus. Donc oui, on a un entraînement qui est plus individualisé, mais c'est fait par notre coach perso enfin nos coachs et pas c'est pas on reste sur la trame de l'équipe de France. Et c'est un petit peu notre souci, c'est que bon, une femme poids léger à 57 kilos, elle va faire exactement le même programme qu'un homme toute catégorie qui est à 100 kilos. Voilà, on n'a pas les. Moi, c'est un petit peu un sujet de discorde. Hein. C'est que, bah, on a déjà en étant une femme, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes soucis des hormones, la même façon de gérer son corps, etc. Donc, pour moi, l'entraînement et le programme d'entraînement devraient être adaptés à ça, même si c'est une grosse demande. Et c'est vrai que, bah, pour gérer une équipe, c'est très compliqué d'individualiser pour tout le monde. Donc, on le fait surtout au ressenti du jour le jour. Si là ça va pas, et ben on enlève 1 ou 2 kilomètres. Ou si là ça va très bien, bah on peut en rajouter un peu plus. Ou alors on travaille plus côté techniquement. En musculation, on va adapter les répétitions. Donc ça, moi je m'appuie beaucoup sur un prépa physique parce que c'est hyper important. Moi j'ai pas la science infuse et j'ai besoin de conseils qui viennent d'un peu partout, quoi.
Ouais, je comprends. Justement, c'est un thème que je voulais aborder. Comme tu l'as dit, il y a un nouveau consultant exécutif de la haute performance, c'est comme ça qu'il l'appelle, je crois, en équipe de France. Enfin, je n'ai pas envie d'écorcher son prénom, mais je crois que c'est Jürgen Grobler. Et qu'est-ce que tu as vu vraiment comme différence après sa venue? C'est uniquement sur les entraînements ou il y a d'autres choses qui ont changé au sein de l'équipe de France au niveau agencement ou autre, tout ce qui est un peu différent de l'entraînement?
Ah oui, il y a eu énormément de changements quand il est venu. Au début, ça, nous, ça nous a fait un peu peur. On s'est dit, waouh, mais comment on va faire en fait? Et en fait, il se trouve que Jürgen Grobler, c'est quelqu'un de très humain. Il est conscient qu'on n'est pas des machines. Et bon, il y a quand même la barrière de la langue parce qu'il parle que en anglais. Donc, des fois, on veut exprimer quelque chose d'assez précis et on peut pas l'exprimer assez précisément. Et de son côté, c'est pareil. Mais c'est quelqu'un de très humain et en fait, il est très observateur. Donc ça, c'est un des trucs qui a changé vraiment, c'est que il observe tout au long de la journée et le soir, il fait son briefing au coach et il y a des choses qui sont adaptées au jour le jour dans le programme. Donc ça, c'est quelque chose qui, ouais, c'est toute cette adaptation pour nous, ça nous a énormément changé la vie. On est paramétré. Enfin, tous les matins, on doit donner un mood state, un sleep feeling, on donne notre fréquence cardiaque au réveil, la densité urinaire aussi, c'est mesuré tous les jours. Et ça, c'est tous les jours, c'est mesuré. Si à un moment donné, ça va pas pour un athlète, il dit OK, cet athlète-là, il fera autre chose. Et il adapte comme ça pour éviter qu'il y ait des blessures, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément moins de blessures cette année. Ensuite, au niveau de l'agencement, bah, nous, ça nous a fait un grand bol d'air, c'est qu'il a regroupé l'équipe de France. On est hommes et femmes ensemble. Et ça, c'était pas arrivé. Enfin, moi, j'ai jamais connu l'équipe de France senior hommes-femmes ensemble. Donc, c'est sympa d'avoir un grand groupe comme ça, de pouvoir s'entraîner tous ensemble et de pouvoir s'appuyer bah, les uns sur les autres et pas seulement dans notre petit groupe de filles qu'on avait en équipe de France pour moi sur mes premières années senior. Donc ça, c'était un autre point aussi qui a bien changé et c'est assez cool. Et sinon, bah, le plus gros point, c'est quand même le programme, hein. On fait plus du tout ce qu'on faisait avant. Donc, on a gardé une base de B1. Donc, ça, c'est l'entraînement base physiologique sur les petites fréquences cardiaques. C'est du long. Mais c'est vrai que ce volume, il est agencé différemment. Donc, on a toujours cette base. Et après, sinon, on fait beaucoup, beaucoup plus de vitesse en bateau, où on va faire du lactique, où on va bosser là-dessus aussi. Et toutes les séances de lactique sont différentes. Donc dans une semaine, on peut avoir 10 séances de vitesse différentes, alors qu'avant, on avait juste le B6 où on faisait des séries 10 coups et puis basta, quoi. Donc ouais, ça c'est un gros point le programme. Et sinon, au niveau musculation, on fait plus que nos traditionnels C2. Donc C2, c'était la musculation endurance de force. Donc ça c'est fini, on n'en fait plus. Moi, ça me manque un petit peu, j'avoue. Je pensais pas dire ça un jour, mais... Finalement, ça me manque un peu. Et à la place, on fait vraiment beaucoup de musculation lourde. Et franchement, bah, on sent la diff au niveau fatigue, quoi. Ouais, c'est assez cool de faire un programme comme ça. On va dire que mentalement, dans la tête, c'est plus reposant.
Ouais, comme pour résumer un peu tout, en gros, maintenant, enfin, l'aviron français, c'est un peu plus professionnalisé, comme tu l'as dit, par rapport à toutes les données métriques qui peuvent être prises, qui ressortent un peu bah, des sciences du sport, ce que j'ai pu entendre. Peut-être que vous faites un peu aussi d'HRV. Enfin, il y a une espèce de professionnalisation qui permet l'individualisation, au final, des athlètes. Et c'est clair que c'est quelque chose, je pense, qui manquait dans l'aviron français. Pareil au niveau de l'entraînement, comme tu le dis, par rapport à ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il se base du coup plus sur un entraînement polarisé, donc comme tu l'as dit, un volume quand même qui reste important à basse intensité. Donc B1, pour ceux qui connaissent pas forcément en aviron, ça représente en gros un footing en course à pied ou une zone 2 en vélo. Et à côté, comme tu l'as dit, beaucoup plus de séances à haute intensité. Et je pense que c'est vraiment ce qui manquait dans le programme français. C'est vraiment ce côté haute intensité et à côté basse intensité. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de B2. Donc pour ceux qui ne savent pas trop, en gros, c'est des intervalles qui peuvent monter jusqu'à, si je dis pas de bêtises, 25 minutes. Et au final, on ne peut pas dire qu'on est en haute, haute intensité sur 25 minutes. Si on fait deux séries de 25 minutes, c'est impossible d'être à haute intensité, quoi. Et du coup, ça reste en gros une intensité qui est viable sur un long terme et pas de la haute intensité. Enfin, c'est ce qui manquait, j'avais l'impression, sur le programme. Et au final, il y a plus de diversité et toi, tu retrouves un peu mieux, c'est ça?
C'est ça, oui. Avant, on avait bah, ce qu'on appelle, enfin oui, les B2. En fait, c'est une inten... les B2, c'est dur parce que c'est très long. On faisait 2 fois 30 minutes de B2. C'est, en fait, mentalement, c'était usant et surtout qu'on enchaînait ces B2 après les C2. Et les C2, en fait, c'est tellement dur que c'est 3 tours de 30 minutes à peu près. En fait, c'est dur et c'est pareil, ça prend la tête. Et le lendemain matin, on a des courbatures, on a mal partout. On est lessivé, épongé, et il faut qu'on réenchaîne sur quelque chose de dur. Et là, dans la tête, c'était un combo pas gagnant du tout. Alors que bah là, c'est vrai que les intensités qu'on fait en bateau, c'est vraiment de l'intensité. Donc, on va faire plusieurs fois 1000 mètres d'affilée. On va faire des 1200, des 1500. Parfois, on fait plein de 2000 d'affilée. On a 2 entraînements dans la matinée et 1 entraînement l'après-midi. Donc en termes de volume, c'est assez important, mais ça va être un volume plus réparti, plus intense, mais plus court. Donc en fait, tout le petit switch, il se fait dans la fraîcheur mentale en fait. Donc le volume, c'est quasiment le même, voire un peu plus élevé, mais par contre, l'intensité est pas la même quoi.
Ouais, je vois un peu le truc, c'est un peu mieux réparti, comme tu dis le volume. Par exemple, là, les championnats du monde, je crois que c'est dans une dizaine de jours, un peu moins peut-être. Peut-être que là, vous étiez plus sur un programme où il y avait beaucoup de volume. Et après, du coup, là, vous allez avoir une phase d'affûtage qui va durer une dizaine de jours, où là, le volume, il va vraiment descendre. Enfin, peut-être que c'est un peu plus, entre guillemets, réfléchi au niveau scientifique, on va dire, parce que c'est des choses qu'on retrouvait au final depuis des années et des années dans d'autres sports d'endurance, comme la course à pied, le vélo ou autre, qu'au final, personnellement, je ne retrouvais pas dans l'aviron. Je me dis, bah, pourtant c'est bizarre, hein, l'aviron, ça reste un sport d'endurance, même si c'est un sport qui reste assez court en termes d'endurance, donc je le rappelle, entre 6 et 8 minutes, ça reste quand même un sport d'endurance. Et pourquoi c'est vraiment différent des autres sports au niveau entraînement? Moi, je me posais cette question vu que je ramais encore il y a quelques années.
Oui, c'est vrai que ça, c'est pas tant qu'on regardait ce qui se passait chez les autres en se disant, bah oui, ils font quelque chose de différent, mais le programme, il a marché, hein. Bon, il a pas changé en beaucoup, beaucoup d'années, mais il marchait, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est juste que on faisait ces périodes, oui, pendant les stages terminaux, on faisait ces 3 semaines de gros, 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 gros volume avec des 20 bornes et des C2 tout le temps. Et après les 10 jours avant la compète, on commençait vraiment à faire de la vitesse. Et en fait, là, c'est un peu ce qui s'est passé aussi sur ce stage. On a fait 2 grosses semaines avec du volume, du long, des 20, 22, 26 bornes parfois le matin. Et là, on passe sur des. Là, cette semaine, on a fait beaucoup, beaucoup de vitesse. Tous les jours, on faisait des travaux de vitesse. Tous les jours, on faisait des 1000, des 2000, des 500, des 250. Tous les jours, on faisait quelque chose en faisant toujours 2 sorties dans la matinée. Donc, si on faisait 12, entre 10 et 12 ou entre 10 et 16 pour la première sortie, on faisait une pause de 1 heure, 1 heure et demie. Et après, on remontait sur l'eau et là, on faisait 10 km vraiment en tapant. Et tous les jours, on tapait. Donc là, on a fait le parcours handicap. Et ce qu'il y a aussi, ce qui nous a changé énormément dans ce programme, j'y pense, mais c'est le repos le dimanche. Il y a une semaine sur 3, une semaine sur 4, on a un dimanche de repos. Et ça change tout quand on peut faire au moins une fois la grasse matinée toutes les 4 semaines. Ça, c'est le feu.
Ouais, bah oui, c'est important pour la récupération, etc. Enfin, on le dira pas assez, mais l'entraînement, c'est aussi la récupération, quoi. Les adaptations physiologiques, etc., ils se font pendant la récupération, donc c'est vraiment super important.
Ouais, ça c'est sûr que la récup, c'est quelque chose qui est un petit peu parfois négligé, mais qui est sous-estimé parce que le pouvoir de la récup, il est énorme sur la perf derrière, quoi.
Ouais, comme tu le dis, et encore à haut niveau, bah, vu que vous êtes encadré et tout, je trouve que bah, c'est plutôt bien respecté, on va dire. Mais c'est vrai que quand on retourne sur un niveau un peu plus inférieur, enfin, un niveau amateur ou même un peu plus, souvent on voit des gens qui essayent de toujours en faire trop et au final, bah, il suffirait juste qu'ils se donnent un peu plus de récupération pour peut-être sauter un cran et être en fait au final meilleur en s'entraînant un tout petit peu moins, quoi.
Même ça, c'est quelque chose que moi je continue de voir aussi au quotidien. Toujours, je prends du plaisir à aller faire les championnats de France Club. Oui, je m'entraîne toute l'année pour l'objectif des championnats du monde, championnats d'Europe, Coupe du monde, etc. Mais c'est vrai que les championnats de France Club, pour moi, ça reste quelque chose de super important. Et quand on peut apporter un peu sa pierre à l'édifice dans le club avec tous ces jeunes et ces moins jeunes d'ailleurs. C'est que moi j'ai vu avec ma coéquipière, c'est que on a mis en place, je lui ai partagé ma routine de récup, ma routine pré et post pesée, et à la fin elle me dit ouais, c'est pas le même championnat quoi. Donc oui, on a mal aux jambes comme tout le monde, mais c'est vrai que la récup c'est hyper important pour être prêt le lendemain quoi. Quand on a des courses qui s'enchaînent, quand on a deux courses par jour pendant 3 jours, faut qu'à la dernière course, la finale la plus importante, on soit prêt et on soit en canne, quoi, parce que sinon, parce que voilà. Et donc en fait, de partager ces routines de préparation physique, de récup, tout ça, c'est hyper important pour la perf et on n'y pense pas forcément parce que c'est des petites choses qu'on se dit, oh, je le ferai plus tard, ou alors oh, j'ai la flemme, ça prend 30 minutes, ça sert à rien. Et en fait, si, c'est hyper important, quoi.
Ouais, comme tu dis, c'est toutes ces petites choses mises bout à bout et régulièrement qui font qu'au final, on a une espèce de performance qui arrive. Et c'est important, comme tu l'as dit, que tu partages ton expérience à d'autres jeunes qui n'ont pas forcément l'accessibilité à toutes ces connaissances qui sont données par l'équipe de France, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que nous, en équipe de France, on a quand même accès à pas mal de choses. Suivi nutritionnel pour les poids légers, qui est super important, mais aussi pour les toutes catégories. Tout ce qui va être suivi de la performance, tout ce qui va être planning d'entraînement, accès à des aménagements pour les études, etc., etc. Et en fait, tous ces suivis mis bout à bout, en fait, ça change la vie. Et quand on peut en faire partager un peu les autres, c'est quand même assez cool parce que la performance de ses coéquipiers au club, ça apporte toujours pas mal de bons moments, pas mal de. Enfin, c'est franchement que du bonheur quand tout le monde réussit à côté. Et franchement, si on peut donner un petit peu de tout ce que nous on a, c'est quand même grave cool. Ça change un championnat quand tout le monde rigole parce que tout le monde a fait une super perf plutôt que quand tout le monde pleure parce que ouais, c'était dur, parce que voilà, on est derrière, etc. Donc ouais, c'est que du bonheur de pouvoir partager et de voir que ça marche pour tout le monde, quoi.
Ouais, c'est super important, je le trouve aussi. Et du coup, quels sont les objectifs pour la suite? Les championnats du monde, je crois que c'est entre le 18 et 25 septembre, là je viens de revoir en République tchèque, c'est ça?
C'est ça, donc là on part mardi à Ratchitché. Donc oui, ce sera les championnats du monde, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Et en République tchèque, ça va être cool, franchement, les objectifs. Bon, avec ma coéquipière, on se met pas de pression, on se dit, bon, voilà, là on a quand même, on a le sentiment d'avoir progressé, on a un peu squeezé notre période hivernale où justement on travaille sur les bases d'endurance, on fait du gros volume, etc. Parce que. Voilà, c'était après les Jeux. On en a profité, il fallait se reposer, etc. Refaire des batteries, refaire la fraîcheur mentale. Donc, grosse pause cet hiver. On a repris l'entraînement un peu tardivement, mais ça nous a fait le plus grand bien. Et là, on a l'impression qu'on a quand même progressé techniquement, que ça se passe plutôt bien l'entraînement, on se fait plaisir, on a plein de. Ouais, non, franchement, on s'est fait beaucoup plaisir sur ce stage. Et fraîcheur mentale, elle est bien. Fraîcheur physique, ça, c'est pas encore au top, mais ça va revenir. C'est prévu. Et au championnat du monde, franchement, on va essayer de se faire plaisir, quoi. On va chercher la glisse, on va chercher les petits détails techniques, on va essayer de pousser des barrières qu'on n'a jamais osé pousser. Et puis peut-être que on arrivera à faire meilleur que notre dernière fois qu'on était au championnat du monde, c'est-à-dire cinquième, quoi.
Ah ouais, on l'espère. Bah, on a vu déjà si je dis pas de bêtises, une seconde place aux Europes, derrière les Anglais, c'est ça?
C'est ça, ouais, aux Europes, on a fait deux derrière les Anglaises qui sont très, très, très en forme. Bah, je pense que ces filles, elles ont tout à gagner aussi parce que, bah, au jeu, voilà, elles ont fait quatrième à 1 centième de la troisième marche du podium. Ça fait mal de s'entraîner 4 ans pour être au pied du podium pour 1 centième de seconde. Donc, ouais, là, elles ont les dents qui rayent le parquet. Elles ont été énormes aux Europes. Elles ont été énormes sur les Coupes du Monde. Donc voilà, hâte de retourner à la compétition et de voir si on peut. Bah, on va tout faire pour. Hein. En tout cas, nous, on est prêtes pour les challenger et aller voir si on peut récupérer les petites secondes qu'on avait de gap entre elle et nous.
Bah ouais, on espère bien. Puis en gros, la grosse concurrence, ça va être les Italiennes et les Anglaises, si je dis pas de bêtises.
Bon, poids léger, c'est toujours assez serré quand même. Hein. Là, on a du beau monde côté italien et anglais, c'est vrai, mais il faut pas mettre de côté les polonaises, il faut pas mettre de côté les américaines, les suisses, les australiennes, les canadiennes. Ouais, il y a quand même du beau monde un peu partout quand même. Hein. Faut pas. Il y a quand même, il y a bien une dizaine de gros bateaux qui peuvent tout donner et rentrer en finale sur un hold-up. Hein. Ça, c'est ce qui est bien en fait en poids léger, c'est que c'est toujours super serré parce qu'il n'y a qu'un seul bateau poids léger qui est olympique. Donc en fait, dans chaque double, c'est les deux meilleurs de chaque nation. Donc il n'y a pas de. Chaque fois, c'est les deux meilleurs de leur catégorie dans leur pays qui représentent le double, qui fait des courses hyper serrées. On a tout ce poids de 57 kilos. Donc la puissance, bah, on la travaille, mais globalement, on a toute la même puissance, voire certaines qui sont quand même un peu plus puissantes. Mais voilà, et sinon, ça se joue au niveau technique. Donc le diable se cache dans les détails, mais une finale de championnat du monde ou de Jeux Olympiques, ça peut se finir tout dans la même seconde, voire en 2 secondes, quoi. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'au départ on se dit franchement il y a tout qui est possible en 2 secondes.
Ouais, c'est sûr, c'est bien que tu le rappelles que vraiment la catégorie poids léger, elle est vraiment intéressante du fait de ces niveaux de performance qui sont vraiment très très proches car tous les athlètes sont au même poids et ont du coup en général la même masse musculaire, etc. Et du coup, c'est quoi tes objectifs, tes projets à un peu plus long terme?
Bah, sportivement, bah, franchement, ce serait de me qualifier pour les Jeux de 2024. Donc ça c'est vraiment ce qui est dans ma ligne de mire pour le moment, donc à plus ou moins long terme parce que ça va arriver quand même très très vite. Et puis avec Laura, bah, franchement, on rêve de l'or à Paris parce que là on n'est pas loin de l'avoir à Tokyo et en même temps Paris c'est quand même à la maison, donc ça fait encore plus rêver, quoi. C'est différent, c'est une nouvelle histoire et ouais, franchement, pour l'instant, c'est mon leitmotiv. Je me dis, ouais, allez, on va rêver de ça et on va tout faire pour au quotidien pour que ça arrive, mais de pas le voir tous les jours non plus dans la ligne de mire. Pas à pas, et tout vient à point à qui sait attendre. Et donc, ouais, ça, c'est ça. Et puis, niveau études, bon, déjà, j'aimerais bien être diplômée. Ça sera dans un peu plus longtemps, mais ça va arriver aussi. Et puis, bosser après, quoi. J'avoue que je me projette pas trop dans le futur. Généralement, c'est ça. C'est pas à pas. Et déjà, organiser ce qui arrive dans le présent, enfin, dans le présent et dans le futur très proche.
Ouais, comme tu le dis, c'est important de savoir vivre dans le présent et de voir les petits objectifs petit à petit, comme tu le dis. Mais bon, c'est vrai que ça nous fait rêver quand tu parles de médaille d'or aux JO en 2024 à Paris. C'est sûr que ça fait rêver tout le monde. Puis on sait que tu restes encore assez jeune, tu as 24 ans cette année, donc ça te fera 26 ans du coup à Paris. Et c'est encore un bel âge où on est très très performant en aviron, en tout cas. Ouais.
Ouais, franchement. Et puis même avec Laura, on se le répète quand même assez souvent. On dit, bah, c'est un objectif, il faut pas que ça nous bouffe la vie, il faut pas que ça nous stresse maintenant. Mais franchement, on n'a pas à rougir d'avoir envie de cette médaille parce que franchement, si on bosse pour, moi, je suis persuadée qu'elle est atteignable, quoi. Donc pourquoi pas?
Ouais, il faut pas avoir peur de dire haut et fort ses objectifs, j'ai envie de dire. Il y a que ceux qui ont peur d'échouer qui le disent pas, quoi. Et c'est déjà un peu joué dans leur tête. Bon, bah écoute, Je te remercie, Claire, pour ce podcast. Et on te souhaite de bons résultats au championnat du monde et une bonne préparation pour la suite des compétitions.
Oh cool, bah merci beaucoup.
Et puis, peut-être à la prochaine.
Bah ouais, hein, avec plaisir. Merci de m'avoir recontacté. C'est vrai que j'ai pas le chat facile sur Insta ou sur les réseaux sociaux. Donc parfois je m'y mets, parfois j'avoue que j'oublie. Et comme les messages s'empilent les uns sur les autres, bah je retourne pas dans le passé pour voir à qui j'avais dit oui et qui j'avais dit non. Donc si on me relance pas, j'ai vite tendance à oublier.
Ouais, bah on comprend. De toute façon, après ta médaille d'argent aux JO en 2021 à Tokyo, j'imagine que tu as eu beaucoup, beaucoup de demandes au niveau, je sais pas, enfin des journalistes, etc., des médias différents, quoi.
Ah oui, il y a eu pas mal de trucs et c'est vrai que j'avais dit oui, pourquoi pas. Et finalement, après, j'ai repris l'école et j'ai dû gérer ma vie qui était déjà pas facile à gérer avant. Mais alors avec ça, en plus, j'étais un peu sous l'eau. Donc j'avoue que je retournais pas dans le passé pour voir à qui j'avais dit oui et tout. Et quand c'était des demandes là tout de suite, je disais oui.
Ouais, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Bon, bah écoute, merci encore et puis bonne continuation à toi, hein. J'espère avoir de beaux résultats là dans 10 jours, quoi.
Yes, bah moi aussi j'espère. Merci beaucoup à vous, c'était super.
Allez, salut.
Salut.
Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous.